Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs, auditrices et amoureux du magazine Bana Okapi. Ce programme de jeunes financé par l'UNICEF traite des sujets liés à la santé, l'environnement, la protection de l'enfance, l'éducation et l'entrepreneuriat. Les diplômes ne sont plus une preuve de vos compétences dans un domaine quelconque. Avec tellement d'irrégularités, des problèmes liés à la corruption que rencontre le secteur de l'éducation, plusieurs diplômes obtenus en RDC sont considérés comme sans valeur dans certains pays d'Afrique et en Occident. Les porteurs de diplômes également ne sont pas à la hauteur et manquent de compétences. Alors, comment lutter contre les diplômes sans valeur? Élément de réponse tout de suite dans ce magazine que je vous recommande de suivre. Moi, c'est Sarah Sumbela. Polydor Basunga est à la prise de son, tandis que Pierre Diassinois assure la mise en onde. Une réalisation de Stanislas Diomi et Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijana. Le magazine Bana Okapi, c'est long. Ce magazine débute à Beni au Nord Kivu où a été lancée récemment la campagne de lutte contre les diplômes sans compétences. C'est une initiative d'une coalition de 9 organisations de la société civile de Beni qui vise à sensibiliser les élèves dans différentes écoles de la place. L'objectif de cette campagne est de leur montrer le danger d'une mauvaise orientation ou du changement d'option au degré terminal. La plupart de élèves qui terminent les études secondaires n'ont pas assez de compétences, indiquent les initiateurs de cette campagne, dont Samuel Don Katembo Sekanabo. Le point focal de cette coalition explique au micro de Guylaine Kassassia.
C'est une campagne que nous avons conçue sur base de l'analyse et l'étude des mouvements de nos frères cadets dans les classes terminales. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent d'abord le cursus normal au niveau de l'école primaire. À commencer l'école secondaire, c'est là que tout devient flou. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent durant le cursus scolaire, mais ils veulent aller se rattraper au niveau de la 6e année. Mais il n'y a pas de bagages. À part ça, il y a aussi d'autres enfants, ils optent pour changer d'option. Vous allez constater que celui qui a fait 4 ans des humanités scientifiques, il vient présenter à nutrition. La question est de savoir, il est qualifié à nutrition, mais est-ce qu'il a des compétences à nutrition? Et s'il faut qu'on l'engage quelque part, on va l'engager comme nutritionniste ou comme scientifique. Et demain ou après-demain, nous allons assister à un taux de chômage suite à des diplômes qui n'ont pas de valeur. Notre activité, c'est maintenant la sensibilisation dans nos écoles.
Chers auditeurs, de nos jours, plusieurs élèves et étudiants obtiennent des diplômes, mais ne sont pas à mesure de défendre leurs diplômes. Certains observateurs pensent d'ailleurs que c'est l'une des raisons du chômage au pays. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Plusieurs jeunes élèves et étudiants changent d'école ou de faculté après avoir échoué à la fin d'année. Certains parmi eux changent d'option faute de moyens financiers et de compétences requises. D'autres se livrent à la corruption pour obtenir le diplôme non mérité. Grâce au réseau, on est allé à la rencontre de quelques jeunes diplômés concernant ces sujets. Suivez.
Bonjour, Consolat Zinga.
Bonjour.
Connaissez-vous certains élèves ou étudiants qui ont changé de faculté ou d'école parce qu'ils ont échoué et ont refusé de reprendre l'année?
Oui, il y a certains élèves dans mon quartier qui ont changé les écoles vu qu'ils ont refusé de reprendre l'année, qu'ils ont allé là-bas pour corrompre, pour passer des classes. Dans mon université, il y a une collègue qui a changé l'université à cause de la négligence qu'elle est allée là-bas pour passer des classes.
Alors, monsieur Elenvo, je vais vous dire que les exemples exemples ne sont pas à chercher. Ces exemples-là sont les gens. On remarque aujourd'hui dans les milieux scolaires, voire dans le milieu universitaire, que les étudiants comme les élèves ne sont pas vraiment fixes dans leur milieu éducatif. Ils changent à tout moment, faute de l'inadaptation. Certains ne sont pas compétents pour pouvoir faire face à la rigueur dans les enseignements, rigueur dans la discipline, et ils se décident d'aller voir ailleurs. Donc ces exemples-là sont multiples et on peut les relever à tout moment, chers journalistes.
Pensez-vous que tous les élèves et étudiants qui terminent les études ont réellement les compétences qu'il faut dans leur domaine?
Bon, je dirais certains. Je ne pourrais pas dire que tous les étudiants, mais il y a certaines catégories qui sont compétentes.
Ah, je veux dire que dans un pays comme le nôtre, un pays très peuplé où il y a vraiment aussi une jeunesse consciente, il y a toujours les gens qui font très bien les choses, surtout les jeunes. Il y a des jeunes qui sont compétents, les jeunes qui ont des capacités intellectuelles, les jeunes qui ont mis de la rigueur dans l'apprentissage de pas mal de choses en termes scientifiques. Et ces jeunes-là aujourd'hui font preuve d'une grande maturité intellectuelle. Je dis et je tiens à rassurer que le pays peut compter sur cette jeunesse-là, le pays peut avoir de l'espoir, que la relève est assurée vraiment.
Pour les élèves qui sont incompétents et étudiants, qui terminent les études mais qui ne sont pas compétents dans leur domaine, d'après vous, quelles pouvaient être les causes de cette incompétence?
Bon, moi je dirais, par rapport à ça, d'abord, avant d'être compétent, il faut d'abord prendre des décisions soi-même, prendre tes études au sérieux, prendre tes histoires au sérieux, au lieu de négliger.
Il y a d'abord une éducation familiale qui est ratée, parce que quand vous avez un enfant qui déserte l'école, qui n'est pas vraiment assidu aux enseignements, donc il y a quelque chose qui ne va pas déjà depuis la famille. Vous imaginez que depuis l'école maternelle, il y avait toujours les suivis des parents en termes d'éducation, en termes de révision des cours, en termes de discipline aussi à l'école. Et si vous avez aujourd'hui des étudiants ou des élèves à haut niveau, déjà à 6e année des humanités, qui désertent l'école, qui sont dans les phénomènes d'enjambement, qui sont dans l'inadaptation, il faut dire qu'il y a eu d'abord un travail de parents qui n'a pas été vraiment très bien apprécié. Après, il y a vraiment, je peux dire, l'encadrement, les amis aussi qui ne fournissent pas un très bon conseil pour que ces gens-là puissent s'adapter favorablement.
Que savez-vous sur la corruption en milieu scolaire ou étudiantin? Comment cela se fait concrètement?
Cela se fait lorsque un étudiant échoue, il est obligé, soit il est obligé de corrompre pour passer des classes. Il faudrait donner l'argent aux assistants ou soit aux encadreurs pour passer des classes.
La corruption, c'est un phénomène qui bénéficie d'une récurrence dans toute la nation et sur tous les plans de notre État, parce que vous allez être convaincant avec moi que même en politique, il y a de la corruption. Dans la gestion de la chose publique, il y a la corruption. Donc même à l'université, dans les écoles, dans la vie étudiantine, dans la vie scolaire, il y a bel et bien de la corruption. Quelqu'un qui n'a pas fait bonne sensation dans un cours, il va à un professeur après, il va à un assistant après, il va à un encadreur après pour avoir des points frauduleux. Quelqu'un qui n'a pas été au cours pendant toute une année, à la fin, il a des pourcentages incroyables. Donc, ce sont des actions qui nuisent à tout un pays. Des répercussions ne sont pas que sur les individus. Des répercussions aussi, c'est sur le plan national, sur le plan de la gestion de la chose publique. C'est quelque chose qui a commencé dès les bas âges, déjà à l'école. Les gens ont appris à corrompre, les gens ont appris à ne pas être sérieux, les gens ont appris à ne pas promouvoir les grandes valeurs, alors que des intellectuels comme nous, nous devrions être les respectueux des principes, les respectueux de la chose publique et des gens qui se fourvoient dans la promotion des grandes valeurs pour une nation forte.
Est-ce que ces étudiants ou élèves qui finissent leurs études sans avoir des compétences dans les domaines de leurs études, bien sûr, connaissent-ils des conséquences y afférentes? Et si oui, lesquelles selon vous?
Les autres sont dans l'opium. Déjà, quand vous étudiez, vous n'avez pas un bon background, vous n'avez pas des capacités intellectuelles. Du coup, vous êtes dans quelque chose d'aveuglement. Vous ne savez pas quoi faire. Je pense que ces gens-là ne peuvent pas faire grand-chose. On ne peut pas compter sur eux. Si on doit compter sur des gens, c'est-à-dire comptons sur les gens qui ont eu un bon parcours, qui ont fait des choses incroyables, qui ont tout donné pour leur formation, et qui peuvent faire des preuves aussi suffisantes dans la gestion de la chose publique que sur d'autres domaines. Moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas eu vraiment une formation assidue, quelqu'un qui est dépourvu de toute capacité de compétence, n'est pas aussi différent d'un fou qui marche sur la rue. Donc nous ne pouvons pas compter sur eux. Si la nation doit avoir espoir, c'est sur une élite normalement constituée sur le plan intellectuel. Les conséquences sont néfastes, les conséquences sont fâches. Vous avez fait la science politique, vous avez fait la psychologie, vous avez fait les sciences infirmières. Est-ce que êtes-vous capable de proposer quelque chose dans votre domaine? Vous trouverez absolument que les gens sont là en train de décrier le chômage. Moi, je pense qu'il faut que les gens prennent vraiment en main l'éducation des jeunes. Il faut que la nation réfléchisse sur des mécanismes pour pouvoir arrêter avec les antivaleurs au niveau universitaire, même au niveau scolaire. Entre autres, la corruption, le clientélisme et toutes les antivaleurs que nous pouvons relever aujourd'hui. C'est de là que provient aujourd'hui tous les maux que nous décrions au sommet de l'État. C'est de là que provient les antivaleurs. C'est de là que provient l'incompétence. C'est de là que provient vraiment toutes les mauvaises choses qui ne peuvent pas être appréciables aux yeux des Congolais.
À Kinshasa, les parents ne tolèrent pas que leurs enfants aient chaud. Ils sont prêts à acheter des bulletins et d'inscrire leurs enfants dans d'autres écoles pourvu que les enfants passent de classe. Certains parents rencontrés par Jeff Opela découragent cette pratique et recommandent aux universités de vérifier l'authenticité des diplômes. Ils demandent également à l'État congolais de prendre ses responsabilités. Suivez leurs interventions.
Monsieur Pidijan, bonjour.
Bonjour.
Et ça vous est déjà arrivé de changer d'école et de faire passer des classes à votre enfant malgré son échec?
Et d'abord, moi-même, je suis fils d'un enseignant. Et j'ai étudié à l'intérieur. Fils d'un enseignant, j'ai été éduqué dans des conditions telles que je n'avais pas droit à la tricherie. C'est comme moi-même j'ai été éduqué dans ces conditions-là et que j'ai étudié aussi dans ces conditions, je ne peux pas permettre à ce que un de mes enfants monte des classes de manière irrégulière. Donc, je ne me suis jamais livré à une telle pratique.
Avez-vous déjà entendu parler d'une telle pratique?
Pas seulement entendu, mais vécu aussi, parce que au-delà de tout, j'ai eu à enseigner à l'école primaire, à l'école secondaire. Aujourd'hui, j'enseigne là où je suis, là où vous connaissez. Mais nous voyons les parents. Une fois, j'avais appelé ce système-là la transhumance scolaire. Comment les élèves vont d'une école à l'autre à chaque fin d'année? Non pas parce que les frais scolaires étaient exorbitants dans cette école-là, mais parce que l'enfant a échoué. Et les parents considèrent qu'il ne peut pas payer doublement pour une même classe. C'est comme ça qu'ils se décident à ce que son enfant aille ailleurs. Et puis les préfets, on en trouve dans tous les coins de Kinshasa ici, qui vendent les bulletins, alors que nous à l'époque, les bulletins étaient une exclusivité des écoles. Mais aujourd'hui, n'importe qui est dans un coin de la rue, il a des bulletins, il a des cachets, et ainsi de suite. C'est comme ça que les élèves montent les classes, à gauche et à droite. Aussi, il faut ajouter l'inefficacité aussi du corps des inspecteurs. Parce que si les inspecteurs étaient efficaces, je pense qu'à chaque contrôle, ces enfants-là seraient traqués et seraient rétrogradés dans les classes où ils ont échoué pour qu'ils reprennent et montent des classes réellement. Mais comme le corps des inspecteurs est devenu défaillant, et sans compter aussi la complaisance au niveau des écoles et des parents, c'est là que ces élèves montent des classes d'une année à une autre alors qu'ils ont échoué.
Ne pensez-vous pas que cette façon de faire est la cause de la dévalorisation des diplômes au pays?
Bon, les diplômes obtenus dans ces conditions-là, il faut commencer par dire que, à la base, c'est quoi? Ce sont les évaluations complaisantes. C'est-à-dire que les professeurs qui enseignent tel cours, le cas de l'université par exemple, l'étudiant n'a pas assisté au cours, à la fin de l'année, ils montent des classes, parfois plus que ceux qui ont suivi le cours réellement. Et ça, c'est ce que moi j'appelle une diplomation sans compétence. Nous avons trouvé un terme, la diplomation sans compétence. C'est-à-dire, quelqu'un qui est resté à l'école durant des années, pour qui les parents ont consenti d'énormes sacrifices financiers, et à qui l'université a décerné un diplôme, attestant qu'il était capable d'avoir ce diplôme-là. Mais il se pose un problème quand il est dans le milieu professionnel, où il ne sait pas lier les diplômes qu'il a avec les tâches qui lui sont confiées dans le milieu professionnel. Il s'observe ce que je pourrais appeler une inadéquation entre les diplômes et les tâches à accomplir. Donc, ça, c'est une diplomation dont, à la base, les mauvaises évaluations ou les évaluations complaisantes. Et la conséquence, c'est celle que nous déplorons tous. Quand vous allez dans tous les coins, c'est tout le monde qui clame. Aujourd'hui, l'école n'existe plus, les diplômes aujourd'hui, c'est rien, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une dégradation continue du système éducatif, il faut le dire comme ça, et qui fait que les diplômes aujourd'hui, on peut l'acheter. Il y en a qui achètent les diplômes. Et les diplômes achetés là ne servent à rien. C'est des diplômes qui ne peuvent pas servir. Alors que les institutions de formation existent pour rendre service à la communauté, soit à la société ou encore au pays. Malheureusement, ces diplômes qui sont achetés ne rendent aucun service à la République démocratique du Congo. Il faudra renforcer les sanctions et puis payer un salaire décent aux enseignants. Je pense que c'est la seule manière pour mettre fin à cette pandémie de vieille date et qui menace même l'avenir du pays.
Madame Makinda Djeni, bonjour.
Bonjour.
Ça vous est déjà arrivé de changer d'école et de faire passer des classes à votre enfant malgré son échec?
Ça ne m'est pas encore arrivé de changer d'école et de faire passer des classes à mes enfants malgré son échec. Ça ne m'est pas encore arrivé.
Avez-vous déjà entendu parler d'une telle situation?
Oui, j'en ai déjà entendu parler par mes collègues parents, par d'autres amis et par mes voisins aux alentours de la maison. J'en ai entendu parler.
Selon vous, que peuvent être les raisons qui motivent les parents à faire cela?
Bon, les raisons qui peuvent motiver les parents à faire cela, il y a d'autres parents qui le font par ignorance. Tellement qu'ils n'ont pas le temps d'aller vérifier la conduite de leurs enfants à l'école, ils n'ont pas le temps d'aller signer le bulletin à l'école de leurs enfants, ils n'ont pas le temps, ils ne font qu'envoyer les gens, et à la fin, ils se retrouvent que l'enfant a eu un échec. Et comme il était ignorant du comportement de son enfant, là, le parent condamne l'école et il fait passer son enfant de classe et il lui change aussi d'école. Et surtout des parents ignorants et des parents qui n'ont pas eu le temps d'être sur le banc de l'école. Ils peuvent aussi faire ça. Et surtout ceux qui sont dans des milieux reculés. Ça leur arrive aussi de faire passer leurs enfants dans d'autres classes. Et d'autres parents, c'est la situation financière qui leur complique un peu. Et ils voient que faire redoubler l'enfant dans la même classe vaut mieux qu'il passe de classe, qu'il achète un bulletin dans une autre école et change l'enfant d'école.
Alors comment faire pour lutter contre les diplômes sans compétences, donc sans valeur?
Pour lutter à cette incompétence, il faudrait que notre État mette un peu de rigueur dans l'éducation des enfants. Il doit faire les contrôles des écoles, passer dans des écoles, voir comment les élèves prennent leurs cours et contrôler la direction, voir comment les élèves évoluent. Et ils prennent le temps de comprendre. Il y a un peu de difficultés. D'abord, l'enseignant est mal payé et quand il se retrouve devant une situation pareille, un parent vient lui proposer une somme colossale qui peut lui sauver tout un mois. Il a la facilité de céder et de faire passer cette
incompétence, on peut dire. Et on doit vérifier l'authenticité du diplôme. Parce qu'il y a des cyber qui falsifient des diplômes pour donner aux enfants. Donc on doit prendre le temps de contrôler le diplôme lorsque les enfants font leur inscription dans des universités, dans les instituts supérieurs.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, Tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes de retour après les infos et très heureux de vous retrouver pour la suite de notre magazine qui vous parle de comment lutter contre les diplômes sans valeur. En effet, certaines irrégularités qui rongent les secteurs de l'éducation au pays font que plusieurs élèves et étudiants obtiennent de diplômes mais sans pour autant avoir les compétences requises. Il s'agit notamment de la corruption, des cas d'élèves qui sautent des classes, de ceux qui changent d'option ou de faculté en dernière année pour recevoir un diplôme dans un autre domaine, sans oublier ceux qui achètent carrément le diplôme. Ce sujet met en lumière tous les petits tracas dans le cursus étudiantin ou scolaire qui font que les diplômes congolais perdent de plus en plus de valeur. Dans ce magazine, nos invités vont nous proposer quelques pistes de solutions pour en finir avec ce problème. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sumbela. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois et Polydor Basunga est à la prise de son. Gisèle Taj et Stanislas Diumi réalisent ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Cette seconde partie s'ouvre sur une note de bonne humeur. Commençons directement cette seconde partie avec le spécialiste en pédagogie. L'enfant qui fait un cursus scolaire normal a plusieurs chances de maîtriser les matières étudiées pour sa formation personnelle. Il sera capable de défendre son diplôme ou son titre obtenu après avoir fini ses études. Le fait que l'enfant change d'école à cause de ses échecs ou de certaines circonstances peut occasionner une certaine incompétence au chef de l'enfant dans différents domaines de la vie et cela se fait remarquer à la fin de son cursus. C'est ce qu'affirme Monsieur Odon Kiala, spécialiste en pédagogie appliquée au complexe scolaire Elicia à Kinshasa. Il s'entretient ici avec Grace Wesolo.
Monsieur Odon Kiala, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes spécialiste en pédagogie appliquée. Savez-vous qu'il y a des parents qui n'acceptent pas que leurs enfants reprennent des classes et préfèrent les changer d'école?
Certainement oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un mauvais système, un très mauvais système parce que l'enfant qui fait un cursus scolaire normal, c'est-à-dire complet, a beaucoup plus d'avantages que celui qui change d'école. Aujourd'hui, il est là-bas, demain, il est de l'autre côté. Alors, celui-là a un certain manque, c'est-à-dire la totalité de matière qu'il faut pour un cursus scolaire normal n'est pas possible pour cet enfant. Voilà, donc c'est un très mauvais système que le parent doit éviter.
Selon vous, ces phénomènes a-t-il beaucoup de conséquences? Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes?
Oui, tout à fait. Ce phénomène a beaucoup de conséquences. Et généralement, ces conséquences, nous le remarquons à la fin, lorsque l'enfant obtient son diplôme d'État, son diplôme de gradué, de licencié, et nous le sentons que sur le marché d'emploi, l'enfant n'a pas de compétences. Il a étudié, il a son diplôme, mais il est incapable de défendre le diplôme qu'il a. Aujourd'hui, nous voyons facilement, lorsqu'on publie les résultats des examens d'État, les enfants saupoudroyés, mais quand vous vous approchez de ces enfants, vous sentez que certains n'ont rien, mais ils ont des pourcentages très élevés de diplômes, ils ont des pourcentages très élevés, mais ils sont incapable de pouvoir défendre ces pourcentages, incapable même de défendre les options qu'ils font aux humanités. Donc tout ça, c'est suite à ce changement. Donc ça se fait sentir à la fin lorsque l'enfant a obtenu son diplôme. Sur le plan pratique, certains n'arrivent pas à défendre le diplôme qu'ils ont ou le pourcentage qu'ils obtiennent.
En milieu professionnel également?
Tout à fait, tout à fait. Vous donnez du travail. Vous savez, moi j'ai toujours et déjà apprécié le système américain qui ne tient pas tout à fait compte de diplôme et de pourcentage, mais qui mise plus sur les compétences. C'est-à-dire, quand il y a du travail, il y a un diplômé d'État, il y a un gradué, il y a un licencié, et on expérimente toutes ces qualités par rapport à leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, vous allez facilement trouver un diplômé d'État qui a bien étudié et qui est capable, compétent, qu'un gradué et parfois qu'un licencié. Nous le voyons sur le plan professionnel. et surtout dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Nous voyons ça.
Alors, quelle est l'importance de faire un cursus normal d'études primaires, secondaires et universitaires, selon vous, Monsieur Audon?
L'importance, c'est avoir le maximum de connaissances. Parce que lorsqu'on change d'école, aujourd'hui vous êtes dans telle école, demain vous êtes dans telle autre école, le système d'enseignement dans ces deux écoles ou ces trois écoles n'est pas le même. Et le niveau d'enseignement n'est pas le même. Il y a certaines écoles où les enseignements se passent bien, dans d'autres écoles, les enseignements sont parfois négligés, parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que certaines écoles ont été créées pour beaucoup plus le caractère commercial. C'est-à-dire, il y en a qui sont là à caractère commercial, mais pas plus à caractère éducatif. C'est-à-dire, on a créé son école, on mise plus sur ce qu'on va gagner et non sur l'éducation des enfants.
Là, vous faites allusion aux écoles privées, je pense.
Tout à fait. Aux écoles privées, oui. Parce que ces écoles ne sont pas subventionnées par l'État congolais, alors elles doivent se chercher. Et il y en a qui se donnent plus sur les finances, tout en négligeant l'éducation des enfants. Parce que ces écoles-là se distinguent généralement par l'obtention des diplômes. Là-bas, les diplômes sont faciles. Les diplômes sont faciles et il y en a qui disent même aux enfants, « Bon, voilà, vous êtes ici, avec moi là, le promoteur, vous avez déjà autant de pourcentage. Si vous voulez ajouter 2%, 3%, tout ça, ça c'est vous. Mais moi, je vous donne le diplôme déjà rassuré avec autant de pourcentage. » Mais vous comprenez déjà, avec ce genre de message, ce genre d'informations, qu'est-ce que l'enfant va fournir comme effort pour avoir son diplôme, un diplôme qui a été mérité? Parce qu'on lui a déjà promis le diplôme, qu'il travaille ou pas, il a déjà son diplôme. Alors, un enfant qui quitte une école où on enseignait très bien et qui va dans une telle école, vous voyez ce que ça fait. De l'autre côté, très bien enseigné, très bien encadré, il va là-bas, l'enseignement est négligé. Là, c'est plus l'argent quand vous payez le frais, et surtout quand vous payez bien, vous ne pouvez pas échouer. Ça veut dire qu'on néglige l'aspect éducatif. Et là, l'enfant ne saura pas bénéficier du maximum de connaissances qu'il pouvait. Donc, c'est là la difficulté.
Est-ce que si un élève change d'option en dernière année, c'est-à-dire l'année terminale, cela poserait un problème, Monsieur Audon?
Tout à fait. Dans une école qui se respecte d'ailleurs, on ne peut pas prendre un élève en année terminale.
Pourquoi?
Parce que, à dire vrai, les classes de recrutement, ce sont les classes d'éducation de base. Si on peut aller plus loin, c'est la troisième des humanités, et on peut s'arrêter là. Dans des écoles qui se respectent, au-delà de ces classes-là, on ne recrute pas. Ça, ce ne sont pas des classes de recrutement. Parce que l'éducation de base, on suppose qu'on va former l'enfant. Jusqu'à ce qu'il arrive en quatrième, on l'a déjà formé dans de basses classes, et puis il arrive en quatrième des humanités, et là, il a déjà le maximum de matière. Mais vous prenez un élève dans une classe terminale. Non, non. Dans des écoles qui se respectent, je le répète, on ne peut pas recruter un élève en classe terminale. Et un élève qui change d'option en année terminale, ça aussi c'est un autre danger. Il a beaucoup de risques parce que vous allez comprendre qu'il peut obtenir son diplôme d'État dans l'option où il est allé, mais il n'a pas la connaissance de cette option. Je prends un exemple. Un enfant qui était en pédagogie générale et qui, en année terminale, va changer d'option. Il va, par exemple, en littéraire. Vous savez qu'en littéraire, le cours d'option, c'est le latin. Cet enfant n'a pas étudié le latin depuis la première des humanités. D'ailleurs, dans certaines écoles, le latin, c'est depuis l'éducation de base. Dans des séminaires, par exemple, des petits séminaires, on enseigne le latin depuis l'éducation de base. Alors, cet enfant qui n'a pas étudié le cours de latin vient, en quatrième des humanités, faire le latin philo. Vous sentez qu'il aura des difficultés. Il termine, il peut décrocher son diplôme d'État en latin philo, mais il ne saura pas défendre la matière de latin philo. Donc il aura beaucoup plus de difficultés. Alors c'est un très mauvais système que moi je ne peux pas encourager. Je ne peux pas encourager. On ne peut pas recruter un élève en classe terminale, non. Dans des écoles qui se respectent, ça ne se fait pas.
Alors que dire des étudiants qui changent de faculté après un échec sans pour autant reprendre l'année académique?
Bon, ici, je veux parler de certaines circonstances. Je parle en termes de circonstances. Changer de faculté après avoir échoué, ça dépend. On ne condamne pas totalement l'étudiant, mais on va un peu analyser les circonstances dans lesquelles cet étudiant s'est retrouvé. Je prends l'exemple. Je connaissais un ami qui a fait la pharmacologie par demande de son père. Lui a fait la littéraire aux humanités. Il va à l'université, son père lui dit, bon, tu vas faire la pharmacologie. Mais cet ami n'est pas fort dans la plupart des cours qui sont dans le programme de pharmacologie. Et il est allé la première année, il a échoué. Il ne s'est pas retrouvé. Et pourtant, il pouvait bien se retrouver en droit. Il pouvait bien se retrouver en communication, il pouvait bien se retrouver en journalisme. Mais il est allé faire ça sur demande de son père. Il a échoué. Et à la fin, il était obligé de changer. Il est allé en économie et c'est là où il s'est retrouvé. Ça, c'est une circonstance. C'est-à-dire, il a fait la faculté malgré lui. Et c'est là où moi je voudrais parler de certaines conditions que l'étudiant ou l'élève doit analyser avant de choisir son option ou sa faculté. Parmi ces conditions, je vois la condition financière. C'est-à-dire pour choisir une faculté, vous devez voir votre condition financière. Est-ce que dans telle faculté, je prends l'exemple de la médecine, qui prend du temps chez nous, vous allez au-delà de 5 ans, au-delà de 6 ans, est-ce que la famille est capable de pouvoir débourser tout le temps, hein, pendant toute cette période où vous allez faire la médecine? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la compétence ou l'intelligence. Est-ce que vous êtes compétent de pouvoir affronter le programme ou le cours qui sont programmés dans votre faculté là? Vous venez par exemple de latin philo. Généralement, ceux qui viennent de latin philo ne sont pas forts dans de cours de sciences. Vous allez affronter une faculté où il y a beaucoup de cours de sciences. Vous allez vous retrouver difficilement. Alors, si vous êtes parti par mouvement d'ensemble, par exemple, des amis avec qui j'ai terminé sont allés là-bas, moi aussi je veux étudier là-bas, je veux faire telle faculté, et vous arrivez à la fin, vous échouez. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez, vous embrassez une autre faculté où vous allez facilement vous retrouver par rapport aux cours qui sont programmés dans cette faculté. Et autre chose, c'est la volonté. On peut bien payer les frais, on peut bien être intelligent, mais on n'a pas la volonté. Là aussi, ça pose problème. Ça pose problème. Alors, l'étudiant, avant de faire une faculté, de choisir sa faculté, doit tenir compte de toutes ces facultés-là, de toutes ces conditions-là. Donc, il faut tenir compte de toutes ces conditions, analyser toutes ces conditions. Et si vous trouvez que toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez embrasser une option, vous pouvez embrasser une faculté. Mais changer, à la fin, n'est pas tout à fait mauvais. Ça dépend de la circonstance dans laquelle on se retrouve.
Ça dépend de la circonstance dans laquelle on se retrouve. Pourquoi certains jeunes diplômés actuellement ont du mal à défendre leur diplôme?
La réponse est simple. Parce qu'ils ont mal étudié. Ils ont soit étudié dans la négligence, soit ils ont été dans des écoles où les enseignements ne se donnaient pas bien, soit ils ont changé des écoles. Parce que, vous savez, bien étudier commence dès l'école primaire. La bonne formation commence dès l'école primaire. À dire vrai, à l'université, on ne forme pas. La formation de base, c'est l'école primaire et les humanités. Quand vous ratez cette formation à l'école primaire, vous ratez aux humanités, sachez que vous aurez un grand vide à l'université. Parce que, je vais vous dire quelque chose. À l'université, vous ne verrez jamais un professeur derrière un étudiant pour lui dire « parle français ». Ça se fait à l'école primaire, ça se fait aux humanités. Vous ne verrez jamais un professeur devant un étudiant pour lui dire « non, tu dois réviser les cours ». Ça, non. Mais ça se fait aux humanités, ça se fait aux primaires. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte. Et quand vous ratez cette éducation à la base, sachez que vous avez un grand vide et vous aurez du mal à vous retrouver. Donc, ces élèves qui terminent leur cycle et qui arrivent à obtenir leur diplôme, mais sont incapables de pouvoir défendre ces diplômes, ce sont des élèves qui ont mal étudié. Ils n'ont pas bien étudié parce qu'on le voit aujourd'hui. Diplômés d'État avec tel pourcentage, mais incapables de pouvoir défendre ce pourcentage. Ils ont très mal étudié. Et là aussi, il y a des écoles. Et ici, quand je parle des écoles, c'est-à-dire des écoles où on n'enseigne pas bien. Il y a des écoles qui sont en train de déformer les enfants aujourd'hui. Et moi, je demanderais à l'État congolais d'être sévère. Aujourd'hui, on ne ferme pas les écoles. Je vois, dans les années antérieures, là, il y a certaines écoles qui étaient fermées. Les inspecteurs passaient, et après, il y a un rapport sur telle autre école. Et puis, on ferme l'école. Mais aujourd'hui, on ne ferme plus les écoles. Les écoles sont là, les écoles naissent tout le jour. Mais allez voir ce qui se passe dans ces écoles. Moi, je crois que l'État congolais doit veiller sur ça. Parce que un pays où l'éducation est négligée, à dire vrai, c'est un pays qui est voué à la mort. Parce que si aujourd'hui, les jeunes congolais ne savent pas bien étudier, ce sont les étrangers qui viendront diriger notre pays demain. Alors, c'est un danger. Donc, tous ces élèves-là qui ne savent pas défendre leur diplôme, qui ont du mal à le défendre, ce sont des élèves qui ont très mal étudié. Ils n'ont pas bien étudié.
Alors, comment lutter contre les diplômes sans compétences, donc sans valeur?
La tâche est partagée. Il y a l'État, il y a les parents, il y a l'élève lui-même et il y a les écoles qui sont des partenaires de l'État. L'État doit améliorer les conditions des enseignants, améliorer les conditions des écoles et les écoles doivent travailler dans le souci de former la jeunesse qui est l'espoir de la nation. Et les parents, à leur tour, doivent aider les écoles à bien travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents, excusez-moi, qui sont un peu des missionnaires. Un parent qui laisse son enfant à l'école, parfois qui paye le frais, mais qui, jusqu'à la fin d'année, ne sait pas ce que son enfant a fait à l'école. À la proclamation des résultats, il ne vient pas. Il ne fait pas un tour à l'école pour savoir comment son enfant se comporte. Mais vous savez, quand un enfant sait que mon père, ma mère ne passent pas à l'école, avec la jeunesse d'aujourd'hui, l'enfant fait n'importe quoi à l'école. Et il y en a même qui ne lisent pas les communiqués de l'école. Alors un parent comme ça, vous attendez à quoi de son enfant? On ne s'attend à rien. Donc si nous voulons lutter contre ça, la tâche est partagée. Il y a l'État au sommet, il y a le parent, il y a l'élève lui-même il y a les écoles qui sont le partenaire de l'État.
Mais c'est au don qu'il y a la merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Notre deuxième invité est Ezeka Kambale Tsongo, membre du comité organisateur de la campagne dénommée « Campagne de lutte contre les diplômes sans compétences ». En cours dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Avec Guylaine Kassassia, il nous explique la motivation de cette initiative qui vise à montrer aux jeunes élèves le danger de vagabonder dans les options ou changer des options au degré terminal, car plusieurs finissent les humanités sans aucune compétence. Suivons donc Ezeka Kambale Tsongo au micro de Guylaine Kassassia.
Ezeka Kambale Tsongo, bonjour.
Bonjour, madame.
Il y a peu, vous avez initié dans la ville de Beni et la campagne dénommée « Diplôme sans compétences ». Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce sens?
Merci, madame. En fait, ce qui nous a motivé, c'est partant de ce que nous avons connu, nous avons rencontré de par notre expérience, d'abord dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie étudiantine aussi. Et nous avons trouvé que d'abord, au niveau estudiantin, il y a des élèves que nous avons rencontrés, des étudiants aussi que nous avons rencontrés, qui ont fait un parcours. Donc, par exemple, au niveau secondaire, il y a ceux qui ont fait, par exemple, la section électricité. Alors, arrivant en sixième année, ou même en cinquième année, parce qu'ils n'ont pas pu satisfaire aux examens, ils ont tendance à changer de section ou d'option. Quelqu'un qui a fait jusqu'à quatrième année ou cinquième année électricité, mais qui veut faire la sixième année de nutrition. Et quand il va obtenir son diplôme en nutrition, vous voyez qu'il n'aura pas toute la matière dans l'option nutrition. Parce qu'il a fait seulement cette section nutrition juste pour avoir un papier, un document, un diplôme. Même, il n'a pas de diplôme d'électricité. Alors, une fois que dans une entreprise, on a besoin d'un nutritionniste. C'est difficile qu'on puisse le prendre. Parce qu'il n'a fait que la sixième année. Il ne connaît pas toute la matière en nutrition. Si on a besoin d'un électricien, lui, il a le diplôme de nutrition. On ne va pas le prendre. Donc, il va rester chômeur à ce niveau-là. Alors, au niveau universitaire, donc pour les étudiants, il y a ceux qui finissent les études et obtenir même un diplôme de gradué, un diplôme de licence. Mais nous, quand nous évaluons ces gens-là, leurs prestations, on trouve que dans sa prestation, le niveau qu'on a évalué, bien qu'il ait un diplôme de licence, il y a ce qu'on trouve, mais avec un niveau. Donc, après l'évaluation, on trouve que non, le niveau c'est de ces messieurs ici ou de cette dame. C'est vraiment un niveau de diplômé d'État. Parce qu'on ne voit pas vraiment les rapports entre son titre ou son papier ou son diplôme et ce qu'il donne comme prestation. Et là, on est contre, soit une personne comme ça, de résilier son contrat.
Mais si on peut parler, par exemple, du parcours au niveau de l'école secondaire, là, on peut parler de la base, mais quand on va à l'université, même si quelqu'un a changé, a fait 4 ans aux humanités secondaires, et qu'à l'université, il va suivre d'autres filières, est-ce que ça a un impact négatif sur son cursus intellectuel?
Oui, nous avons constaté qu'il y a toujours un impact. Parce que la légèreté que quelqu'un a connue au niveau du secondaire, il arrive que cette même légèreté puisse continuer au niveau universitaire. Ce qui fait qu'il y a même des étudiants qui finissent les études universitaires, mais parce qu'il a été, il est habitué à une légèreté. Il y a des gens, même des étudiants, qui donnent des corruptions aux enseignants, aux professeurs. Et là, on leur donne même des points qu'ils ne méritaient pas. Donc, c'est une continuité qui est négative, dans le sens que même quelqu'un qui a fini les études, il a obtenu son diplôme de gradué, de licence, mais avec cette manière de corrompre, toujours de corrompre, en tout cas, il n'aura rien en tête. Et ce qui fait que nous sommes des employeurs, par exemple, on saura déjà que celui-ci, vraiment, il ne méritait pas.
Ouais. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que vous visez?
Ce que nous voulons est que, presque à tous les niveaux, l'étudiant ou l'élève a sa place, a sa part à faire. Les parents, ils ont aussi leur part à faire. Les autorités scolaires, ils ont leur part à faire. Et même ceux qui sont au niveau de l'éducation, ils ont leur part aussi à faire. C'est-à-dire, pour les élèves, Nous avons pensé que les élèves doivent se mettre au travail, prendre les études au sérieux, ce que nous voulons. Et que quand il a fait un choix d'une option quelconque, qu'il puisse continuer dans cette option-là. Parce qu'il y a des enfants qui ont peur peut-être de reprendre une classe, alors que c'est pour le son bien. Parce qu'on veut qu'il apprenne bien et qu'il maîtrise bien le cours où il n'a pas satisfait. Donc, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi les parents. Les parents doivent faire le suivi de leurs enfants. Quand ils sont à l'école, quand ils sont même à l'université, un parent doit faire bien le suivi. J'ai connu un étudiant qui était à Lubumbashi, qui était parti à Lubumbashi. Il a fait 3 ans et qui demandait à ses parents le faux académique, le faux académique, tout ça. Mais 3 ans après, l'étudiant, donc il n'étudiait pas. Et quand on a su, après qu'il ait suivi, on a su que non, il passait tout son temps à déambuler à Lubumbashi, on l'a fait venir à cet élève-là, disons cet étudiant, n'est-ce pas? Donc le parent doit bien faire le suivi. Ce n'est pas faire, tu envoies le frais académique pendant 3 ans sans savoir comment l'enfant évolue à l'université. Alors je disais aussi que le corps professoral ou les enseignants, il ne faut pas qu'ils donnent aux enfants le point qu'ils n'ont pas mérité. Parce que là, c'est détruire leur avenir. Le corps enseignant doit comprendre qu'on leur envoie les enfants pour qu'ils puissent bien investir dans ces enfants-là. Donner la bonne matière. Il ne faut pas donner le point à un enfant, le point qu'il ne méritait pas.
Alors, à vous entendre écouter, si l'enfant trouve qu'il a mal choisi, il serait mieux de faire quoi? Peut-être de recommencer à première des sections pour qu'il finalise bien cette filière.
Oui, moi je crois que c'est bien que l'enfant finisse bien la filière qu'il a choisie. C'est bon quand un enfant lui-même choisit même une filière.
Et s'il trouve qu'il a mal choisi pendant qu'il est déjà en deuxième, en troisième, il fait quoi? Il peut encore retourner derrière, recommencer une autre filière que d'échanger déjà pendant qu'il est en cours de route?
Oui, je crois que les enseignants sont mieux placés pour orienter l'enfant. Parce que ce sont eux qui sont en train de faire, qui font le suivi des enfants, enfin, qui sont sur le banc de l'école. Ils connaissent bien. Et je crois que quand l'enfant choisit, et l'enseignant qui connaît bien l'enfant, il peut bien l'orienter. Et s'il faut, quand il a déjà, il est en troisième année, c'est mieux qu'il ne puisse pas avoir peur si en troisième année, il n'arrive pas à maîtriser bien les cours. Il peut même reprendre pour bien qu'il comprenne bien. Ce n'est pas mal de reprendre une classe. Ce n'est pas mal. C'est pour que l'enfant maîtrise bien les cours et je crois qu'il sera utile à la fin. Quand il aura déjà acquis des bonnes compétences, une bonne connaissance, ça sera un acquis dans l'avenir.
Alors, monsieur Ezeka, comment se déroule cette campagne?
Après le lancement officiel qui a été fait par les sous-proved, nous avons organisé des sensibilisations dans les écoles. Et où on rencontrait les élèves, on rencontrait les préfets, les enseignants, et communiquait bien les conséquences négatives quand un enfant n'arrive pas à se maintenir dans la filière qu'il a choisie. Et le fait de chaque fois changer tout ça et mérite prendre, avoir le point qu'il ne mérite pas, nous avons dit non. Ça, il faut que l'enfant soit interpellé aussi. Qui ne cherche pas à corrompre l'enseignant, mais aussi les enseignants qui ne puissent pas amener les enfants à l'heure de la corruption pour qu'ils puissent avoir des points qui ne sont pas mérités.
Par cette campagne qui se déroule dans les écoles, est-ce que vous n'aurez pas aussi le temps de vous rencontrer avec certaines équipes de comités de parents? Parce que les parents aussi doivent être sensibilisés dans ce sens. Vous pouvez sensibiliser les enfants, mais comme vous l'avez dit, les parents aussi doivent être sensibilisés.
Tout à fait. Donc, nous sommes programmés une conférence dans laquelle on a invité le préfet, un représentant des parents, un représentant des enseignants et un représentant des élèves. Donc, 4 personnes par école. Disons la semaine prochaine, nous pensons que cette activité aura lieu.
Alors, monsieur Tiongo Kambale Ezeka, pour finir, est-ce que votre équipe est-elle composée de spécialistes en matière pédagogique pour qu'en arrivant dans une école, vous ayez quand même un bagage à partager aux enfants?
Oui, affirmatif. Nous avons dans notre équipe ceux qui ont fait la pédagogie et qui maîtrisent bien. Mais aussi, il y a l'expérience aussi qui complète cette connaissance en pédagogie. Il y a l'expérience.
Ezeka Kambale Tiongo, nous vous remercions.
Je vous remercie aussi, madame.
Comment lutter contre les diplômes sans valeur? Notre dernier invité est Augustin Toumba Nzouzi, le SG de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Pour lui, il faut éviter les vagabondages scolaires, améliorer les conditions de travail des enseignants et lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption. Augustin Toumba Nzouzi répond aux questions de Stanislas Diomi.
Augustin Toumba Nzouzi, bonjour.
Bonjour, monsieur Stanislas.
Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Et aujourd'hui, l'émission Bana Okapi aborde le point sur comment lutter contre les diplômes sans valeur. Et à l'entrée des jeux, comment vous comprenez ces phénomènes?
Oui, justement, un diplôme, en fait, c'est un certificat, je peux dire, qui prouve que tu as acquis certaines compétences dans un domaine particulier. Donc, les compétences, voyez, les connaissances et la conscience, bien sûr, liées à ce domaine là-bas. Alors, quand on a le diplôme, donc on valide les acquis que vous avez. Ça vous donne donc la facilité de l'insertion professionnelle, vous ouvrir à d'autres portes pour des études supplémentaires, et puis ça donne en fait une certaine crédibilité à la personne qui doit défendre ce diplôme, qui doit porter ce diplôme. Alors, les diplômes qui sont sans compétence, ça veut dire que quelqu'un est titulaire d'une attestation, mais au fond, il n'est pas à même de défendre cette attestation. Donc, il y a un déficit entre les contenus de ce diplôme là-bas. On dit vous êtes docteur en droit ou en médecine, mais quand on essaye de vérifier les connaissances que vous avez, il n'y a pas de rapport. Donc c'est le cas que nous connaissons justement dans beaucoup de pays, mais ici c'est de la RDC qu'il s'agit, où nous connaissons de plus en plus ce phénomène.
Et en République démocratique du Congo, qui est notre pays, c'est un phénomène déjà très fréquent, surtout avec nos élèves de 6e qui, après avoir obtenu leur diplôme d'État, mais sont la plupart, voulais-je dire, sont incapables de défendre, comme vous venez de le dire. Quelle est la véritable cause de ce phénomène qui consiste à ce qu'on porte un diplôme D6, mais on ne sait même pas donner cours pour se trouver quelque chose comme ce fut le cas à l'époque de nos parents?
Vraiment. Je me rappelle que mon grand-père n'avait fait que 7 ans, c'est-à-dire 6 ans primaire, et puis 7e année, il était retenu comme éducateur. Il enseignait déjà en première année primaire avec grande compétence.
Vraiment.
Alors aujourd'hui, le grand problème, c'est d'abord la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation, nous voyons, quand on parle de la qualité de l'éducation, il y a des enseignants de qualité, il y a les matériels didactiques de qualité et puis l'environnement de qualité. Alors, quels sont les enseignants aujourd'hui? Parce que dans le temps, pour devenir enseignant, comme j'ai dit, mon grand-père, c'est en 7e année, c'était les gens qui distinguaient, qui devaient encadrer les autres. C'était pas un pis-aller, donc quelqu'un qui se dit, faute de mieux, je veux quand même traîner dans l'enseignement. Ça, c'est la première des causes. Donc, ceux qui distinguent ne restent pas dans l'enseignement, ils vont ailleurs. Deuxièmement, il y a l'option pédagogique en soi, de tous les temps, à toujours considérer comme une option facile. Les gens, si quelqu'un veut devenir informaticien dans l'avenir, il veut gérer les personnels dans l'avenir, la condition sine qua non pour pouvoir aller à l'université, il faut avoir un diplôme d'État. Et le nombre de cours dans l'option pédagogique et ainsi de suite, c'est très peu, et puis c'est à caractère théorique. Les gens préfèrent passer par là pour aller ailleurs. Et par conséquent, vous trouvez un juriste qui devait normalement faire le littéraire au niveau secondaire, il a fait la pédagogie et puis désorienté un peu en quelque sorte. Autre chose, ce sont les antivaleurs. Les antivaleurs, c'est comme la corruption, c'est le vagabondage scolaire et certaines facilités qu'on accorde. Vous avez un enfant qui échoue en première année dans telle école, il va dans l'autre école, il passe directement dans la classe suivante. Et, curieusement, avec tous les antivaleurs, il arrive quand même à s'en sortir parce qu'il se retrouve parmi les aveugles, lui il est borgne, il passe des classes comme un meilleur et on se retrouve des meilleurs de certaines écoles qui ne sont autres que des cancres, des gens qui ont triché, des gens qui ne sont pas à même de défendre le niveau de notre enseignement. Voilà, de façon résumée, tout ce que nous connaissons comme problème pour avoir des diplômés qui n'ont pas la compétence requise pour pouvoir défendre leur pièce d'étude.
À vous entendre parler, je comprends que le mal est tellement profond. Alors, que faire pour sortir le pays de ce mal profond et quelles solutions préconisez-vous en tant qu'éducateur pour combattre cette réalité?
D'entrée de jeu, je voudrais saluer les efforts qui sont en train d'être réalisés dans le cadre de la numérisation des systèmes, je ne sais pas, de contrôle pour le CERNI, Service National, je ne sais pas, d'information sur les élèves.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a toute une base de données qui va reprendre tous les enfants de la RDC et contrôler l'évolution de chacun dans son école ou ailleurs pour pouvoir éviter les vagabondages scolaires, justement, le contenir sinon. Deuxième des choses, il faut améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, de telle sorte que ce métier soit beaucoup plus attrayant pour récupérer ceux-là qui ont distingué, afin que l'on élève, l'on améliore vraiment justement cette qualité-là. Parce qu'on ne peut pas faire de la gratuité de l'enseignement avec des enseignants qui touchent 100 dollars par mois. C'est impossible, il ne faut pas rêver que les diplômes qu'on va distribuer, ça sera des diplômes pour des gens qui sauront les défendre. Alors, en plus de ces enseignants, la qualité, c'est aussi les salles qui sont pléthoriques là-bas. Je ne sais pas dans quelles conditions on peut faire de la qualité avec des salles de classe pléthoriques. Autre chose, c'est les antivaleurs qu'il faut éviter dans les secteurs. Il y a la société civile, notamment au niveau de notre syndicat. Nous évoluons avec une ONG parallèle qui s'appelle Belka, lutte contre les antivaleurs dans les secteurs de l'éducation, qui essaie de faire quelque chose, mais c'est encore en gestation. C'est quelque chose que l'on doit tout le monde accepter pour que ça puisse s'implanter partout ailleurs, de manière à empêcher qu'il y ait ces problèmes là-bas. Vous imaginez que nous avons dans les secteurs de l'éducation des chefs d'établissement qui ne savent ni lire ni écrire. À peine ils peuvent prononcer quelques mots en français, mais sinon ils ne peuvent pas faire quelque chose. Donc ça, c'est en fait l'ensemble de ces choses là-bas contre lesquelles il faut lutter de manière à obtenir la qualité de l'éducation qui fera que ceux-là qui possèdent le diplôme soit en mesure de les défendre comme il se doit.
Et quand on ne sait pas défendre son diplôme comme il se doit, est-ce que cela a un impact sur la vie future du porteur de ce diplôme?
Bon, c'est très compliqué parce que quand on a le diplôme, en fait, il te donne une certaine légitimité.
Mm-hmm.
Quand tu ne sais pas le défendre, tu vas te limiter à cela. Si on veut recruter, je ne sais pas, des députés, la condition, il faut avoir un diplôme, tu sais présenter les diplômes, et puis c'est tout, tu peux accéder. Quand il faut, je ne sais pas, voyager ou je ne sais pas faire quoi, il faut les diplômes, ça te donne cette légitimité-là. Mais en dehors de ça, ça ne peut pas t'ouvrir des portes à d'autres études. Parce que quand tu vas aller te présenter là-bas, on va dire, par exemple, quand on a des formations, même dans le cadre syndical, des formations en dehors de la formation formelle, on dit toujours que pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut avoir la base. Et cette base ne peut se justifier que si vous avez fait le cursus normalement de votre domaine, un diplôme, donc vous êtes incapable de défendre, c'est que vous ne saurez pas mieux vous développer dans les milieux professionnels. Ainsi, on dit toujours en Afrique, quand on veut engager, on dit toujours qui t'a recommandé. C'est ce qui est aussi le mal contribue à ce qu'on a des chefs d'établissement qui sont incompétents. En Afrique, on dit toujours, pour trouver des emplois, on pose la question de savoir qui vous a recommandé. Et ainsi, nous avons des responsables qui ne sont pas à même de défendre leur diplôme, mais qui ont réussi quand même à s'insérer dans le monde professionnel. Quand on arrive en Europe, on demande le diplôme que l'on porte. Ainsi, sachant les conditions que nous sommes en train de traverser, on nous soumet à d'autres tests pour pouvoir valider notre diplôme. Et quand vous arrivez aux États-Unis, là, on met le diplôme de côté, on vous demande ce que vous savez faire et on vous évalue sur l'état pour pouvoir vous accorder un emploi. Donc, ces réalités là-bas nous montrent combien nous avons à donner de l'importance à ce que nous faisons pour pouvoir décrocher les diplômes. De cette façon-là, nous allons non seulement nous sentir légitimes, nous aurons confiance en nous, parce que le diplôme va nous donner une certaine crédibilité, mais aussi nous aurons, si possibilité il y a, de poursuivre des études, de nous insérer dans la vie professionnelle et de faire toute autre chose, tout en mettant en valeur par ce que nous serons, notre pays, notre institution de formation et par conséquent tout l'avenir de notre pays, donc la génération à venir aura la facilité de s'insérer si nous aujourd'hui nous faisons un effort pour ne pas admettre les antivaleurs.
Monsieur Augustin Toumba, pensez-vous que les parents doivent jouer un rôle pour lutter contre cette réalité, d'autant plus que vous avez épinglé le problème des antivaleurs? Il y a des enfants qui ne réussissent pas dans l'autre école et vont s'inscrire ailleurs, mais c'est sous la bénédiction de leurs parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour aider leurs enfants à apprendre, et surtout s'il faut échouer même, pour que la matière puisse être bien assimilée afin de défendre son diplôme prochainement?
Justement, les parents doivent jouer un rôle prépondérant dans cette vie. Pourquoi? Parce que déjà, les parents doivent encadrer leurs enfants. En première année et deuxième année, les enfants ont besoin de leurs parents pour les aider, notamment à répéter à la maison ou à résoudre certains devoirs à la maison. Parce qu'en première et deuxième année, on refuse que les parents puissent faire recours à une personne extérieure pour pouvoir encadrer l'enfant. Alors déjà là, les parents doivent aussi faire un effort pour comprendre pourquoi l'enfant n'évolue pas bien. S'approcher, parce que de nos jours, les parents viennent rarement parler avec les enseignants. Ils doivent s'approcher des enseignants pour comprendre les difficultés qu'il y a afin d'améliorer la façon de l'encadrement de l'enfant, non seulement à la maison, mais aussi à l'école. De cette façon-là, quand l'enfant échoue, le parent sait comprendre, il sait donner des conseils nécessaires et importants à l'enfant pour que cet enfant ne puisse pas, par tricherie ou par ruse, puisse trouver des moyens afin de passer pour suivre les collègues. Donc, c'est vraiment important que les parents puissent s'impliquer dès les bas âges. Ainsi, quand les enfants grandissent, les plus grands là-bas, surtout ceux-là, qui côtoient déjà d'autres milieux, qui sont accros au téléphone, au film, ainsi de suite, ce sont ceux-là qu'il faut aussi le plus, quand déjà le départ est bon, dès leur bas âge. Je pense que quand ils deviennent adultes, le travail est un peu simplifié, parce qu'à ce moment-là, ils comprennent facilement. Déjà, à la période de l'adolescence, ils suivent les conseils des parents, des bons conseils alors, pour pouvoir mieux s'orienter, décrocher les diplômes pour le défendre utilement dans la vie, dans la société. Donc les parents doivent jouer un rôle très très important en ce qui concerne la lutte contre ces antivaleurs.
Monsieur Augustin Toumba, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, Stanislas.
Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine du jour qui vous a parlé de comment lutter contre les diplômes sans valeur. Nos invités ont proposé plusieurs solutions, notamment la réforme du secteur éducationnel, plus de rigueur de la part de professeurs et l'amélioration de conditions de vie de ceux-ci qui amèneraient à des résultats plus positifs. Ce magazine est à retrouver sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Ezekiel Mouzali, Guylaine Kassassia, Grasson Vezolo, Rachel Kessembangou, André Kitenge et Stanislas Diomi. Gisèle Kaj était à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Omatweki Mofelele Dijano. La mise en onde était assurée par Pierre Dessinois. Polydor Basunga était à la prise de son. Une présentation de Sarah Sombela. Ciao et à la prochaine.